Chapitre 7. Il faisait un froid brumeux, une après-midi sombre à 4 heures, même sur cette large avenue des Champs-Élysées, où se hâtaient les voitures dans un roulement sourd et ouaté. C'est à peine si Jean put lire au fond d'un jardinet, dont la grille était ouverte, ses lettres dorées, très hautes au-dessus de l'entresol d'une maison à l'aspect luxueux et tranquille de cottage, appartement meublé, pension de famille. Un coupé attendait au ras du trottoir. La porte du bureau poussée, Jean la vit tout de suite, celle qu'il cherchait, assise dans le jour de la fenêtre, feuilletant un gros livre de comptes en face d'une autre femme, élégante et grande, un mouchoir aux mains et un petit sac de boursicotière. « Vous désirez, monsieur ?» Fanny le reconnut, se leva, saisie, et passant devant la dame. « C'est le petit !» dit-elle tout bas. L'autre examina Gossin les pieds à la tête avec le beau sang-froid connaisseur que donne l'expérience, et très haut, sans se gêner. « Embrassez-vous, mes enfants, je ne vous regarde pas. » Puis elle se mit à la place de Fanny, continua à vérifier ses chiffres. Il s'était pris les mains, se chuchotaient des phrases bêtes. « Comment ça va ? Pas mal, merci. Alors tu es parti hier soir ?» Mais l'altération de leur voix donnait aux mots leur vraie signification. Et assis sur le divan, se remettant un peu. « Mais tu n'as pas reconnu ma patronne ?» disait Fanny à voix basse. « Tu l'as déjà vue pourtant, au bal de l'Échelette, en mariée espagnole. » Un peu défraîchie, la mariée. Alors c'est, oui, Rosario Sanchez, la femme à deux potères. Cette Rosario, Rosa, de son nom de fête, écrit sur toutes les glaces des restaurants de nuit et toujours soulignée de quelque ordure, était une ancienne dame des chars à l'hippodrome, célèbre dans le monde de la noce par son dévergondage cynique, ses coups de gueule et de cravache, très recherchés des hommes de cercle, qu'elle menait comme ses chevaux. Espagnole dorant, elle avait été plus belle que jolie et tirait encore aux lumières un certain effet de ses yeux noirs bistrés, de ses sourcils rejoints en barre. Mais ici, même dans ce faux jour, elle avait bien ses 50 ans, marquée sur une face plate, dure, à la peau soulevée et jaune, comme un limon de son pays. Intime de Fanny Legrand pendant des années, elle l'avait chaperonnée dans la galanterie, et rien que son nom épouvantait l'amoureux. Fanny, qui comprit le tremblement de son bras, essaya de s'excuser. « Ben, à qui s'adresser pour trouver un emploi ? On était bien embarrassés. » D'ailleurs, Rosa, maintenant, se tenait tranquille, riche, très riche, vivant dans son hôtel avenue de Villiers ou à sa villa d'Anguin, recevant quelques anciens amis, mais un seul amant, toujours le même, son musicien. « De Potter ?» demanda Jean, « je le croyais marié. »« Oui, oui, marié, les enfants, il paraît même que sa femme est jolie. Cela ne l'a pas empêché de revenir à l'ancienne. Et si tu voyais comme elle lui parle, comme elle le traite, oh, il est bien mordu, celui-là. » Elle lui serrait la main avec un tendre reproche. La dame, à ce moment, interrompit sa lecture et s'adressa à son sac qui sautait au bout de la cordelière. « Mais reste donc tranquille, voyons !» Puis à la régente, sur un ton de commandement. « Donne-moi vite un bout de sucre pour Bichito !» Fanny se leva, apporta le sucre qu'elle approchait de l'ouverture du ridicule avec ses petites flatteries, des mots enfantins. « Regarde la jolie bête !» dit-elle à son amant, en lui montrant, tout entouré de ouates, une sorte de gros lézard, difforme et grenu, crêté, dentelé, la tête en capuchon, sur une chair grelottante et gélatineuse. Un caméléon, envoyé d'Algérie à Rosa, qui le préservait de l'hiver parisien, fort de soins et de chaleur. Elle l'adorait, comme jamais elle n'avait aimé aucun homme. Et Jean démêlait bien au mamour flagorneur de Fanny la place que l'horrible bête tenait dans la maison. La dame ferma le livre, prête à partir. Pas trop mal pour une seconde quinzaine, allez seulement, veille à la bougie. Elle jeta son regard de patronne autour du petit salon, tenu, rangé, aux meubles de velours frappés, souffla un peu de poussière sur le yucca du guéridon, constata un accroc dans la guipure des croisées. Après quoi elle dit aux jeunes gens avec un œil entendu « Vous savez, mes petits, pas de bêtises, la maison est très convenable. » Et rejoignant la voiture qui l'attendait à la porte, elle s'en alla faire son tour de bois. « Oh, crois-tu que c'est sciant ?» dit Fanny. « Je les ai sur le dos, elle ou sa mère, deux fois la semaine. Oh, la mère est encore plus terrible, plus pingre. Il faut que je t'aime, va, pour durer dans cette baraque. Enfin, te voilà, je t'ai encore. Oh, j'ai eu si peur. » Et elle l'enlaça, debout, longuement, lèvre contre lèvre, s'assurant bien au tressaillement du baiser qu'il était encore tout à elle. Mais on allait et venait dans le couloir, il fallait se méfier. Quand on eut apporté la lampe, elle s'assit à sa place habituelle, un petit ouvrage au doigt. Lui, tout près, comme en visite. « Suis-je changé, hein ? Est-ce assez peu, moi ?» Elle souriait, montrant son crochet manié avec une gaucherie de petite fille. Toujours elle avait détesté ses travaux d'aiguille. Un livre, son piano, sa cigarette, ou les manches retroussées par la confection d'un petit plat, elle ne s'occupait jamais autrement. Mais ici, que faire? Le piano du salon, elle ne pouvait y songer de tout le jour, obligée de se tenir au bureau. Des romans, oh, elle savait bien d'autres histoires que celles qu'il racontait. À défaut de la cigarette prohibée, elle avait pris cette dentelle qui lui occupait les doigts et la laissait libre de penser, comprenant à cette heure le goût des femmes pour ces menus travaux qu'elle méprisait jadis. Et tandis qu'elle rattrapait son fil avec des maladresses encore, une attention d'inexpérience, Jean la regardait, toute reposée dans sa robe simple, son petit col droit, les cheveux bien à plat sur la rondeur antique de sa tête, et l'air si honnête, si raisonnable. Dehors, dans un décor luxueux, roulait continuellement le train des filles à la mode, haut perché sur leurs phaétons, redescendant vers le Paris bruyant des boulevards. Et Fanny ne semblait pas avoir un regret pour ce vice étalé et triomphant, dont elle aurait pu prendre sa part, qu'elle avait dédaignée pour lui. Pourvu qu'il consentît à la voir de temps en temps, elle acceptait très bien sa vie de servitude. Il trouvait même des côtés amusants. Tous les pensionnaires l'adoraient. Les femmes étrangères, sans aucun goût, la consultaient pour leurs achats de toilettes. Elle donnait des leçons de chant le matin à l'aînée des petites péruviennes, et pour le livre à lire, la pièce à voir, elle conseillait ses messieurs, qui la traitaient avec toutes sortes d'égards, de prévenances, un surtout le Hollandais du second. Il s'assied là où tu es, tu vois, reste en contemplation, jusqu'à ce que je lui dise « Qu'eu peur, vous m'ennuyez ». Alors il répond « Bien !» et il s'en va. « C'est lui qui m'a donné cette petite broche en corail. Oh, tu sais, ça vaut 100 sous, mais je l'ai accepté pour avoir la paix. » Un garçon entré apportait un plateau chargé qu'il posait sur un bout du guéridon en reculant un peu la plante verte. « Mais ben, c'est là que je mange toute seule une heure avant la table d'hôte. » Elle indiqua deux plats du menu assez longs et copieux. La gérante n'avait droit qu'à deux plats et au potage. Faut-il qu'elle soit chienne, cette Rosario? Du reste, j'aime mieux manger là, j'ai pas besoin de parler. Je relis les lettres qui me tiennent compagnie. Elle s'interrompit encore pour atteindre une nappe, des serviettes. À tout moment, on la dérangeait, un ordre à donner, une armoire à ouvrir, une réclamation à satisfaire. Jean comprit qu'il la gênerait en restant davantage. Puis on installait son dîner, et c'était piètre, cette petite soupière d'une portion qui fumait sur la table, leur donnant à tous deux la même pensée, le même regret de leurs anciens tête-à-tête. « à dimanche !» murmura-t-elle tout bas en le renvoyant. Et comme ils ne pouvaient s'embrasser à cause du service des pensionnaires qui descendaient, elle lui avait pris la main, l'appuyait contre son cœur longuement pour y faire entrer la caresse. Tout le soir, la nuit, il pensa à elle, souffrant de sa servitude humiliée devant cette gueuse et son gros lézard. Puis le Hollandais le troublait aussi, et jusqu'au dimanche, il ne vécut pas. En réalité, cette demi-rupture, qui devait préparer sans secousse la fin de leur liaison, fut pour celle-ci le coup de serpe de l'émondeur dont se ravive l'arbre fatigué. Ils s'écrivirent presque chaque jour, de ces billets de tendresse comme en griffonne l'impatience des amoureux. Ou bien c'était, au sortir du ministère, une causerie douce dans le bureau pendant l'heure du travail à l'aiguille. Elle avait dit à l'hôtel, en parlant de lui, « un de mes parents ». Et, sous le couvert de cette vague appellation, il put venir quelquefois passer la soirée au salon, à 1000 lieues de Paris. Il connut la famille péruvienne, avec ses innombrables demoiselles fagotées de couleurs criardes rangées autour du salon, de vrais Zara au perchoir. Il entendit la cithare de mademoiselle Minna Vogel, enguirlandée comme une perche à houblon, et vit son frère malade à faune, suivant de la tête avec passion le rythme de la musique et promenant ses doigts sur une clarinette imaginaire, la seule dont il eut permission de jouer. Il fit le whist du Hollandais de Fanny, un gros balourd, chauve, d'aspect sordide, qui avait navigué par tous les océans du monde, et quand on lui demandait quelques renseignements sur l'Australie, où il venait de passer des mois, répondait avec un roulement d'yeux « Devinez combien les pommes de terre à Melbourne ?» N'ayant été frappé que de ce fait unique, la cherté les pommes de terre dans tous les pays où il allait. Fanny était l'âme de ces réunions, causait, chantait, jouait la parisienne informée et mondaine. Et ce qu'il restait dans ses façons de la bohème ou de l'atelier échappait à ces exotiques où leur semblait le suprême genre. Elle les éblouissait de ses relations avec les personnalités fameuses des arts ou de la littérature, donnait à la dame russe qui raffolait des œuvres de Dejoie, des renseignements sur la façon d'écrire du romancier, le nombre de tasses de café qu'il absorbait en une nuit, le chiffre exact et dérisoire dont les éditeurs de Sandrinette avaient payé le chef-d'œuvre qui faisait leur fortune. Et les succès de sa maîtresse rendaient Gossin si fier qu'il oubliait d'être jaloux et aurait volontiers certifié sa parole si quelqu'un l'eût mise en doute. Pendant qu'il l'admirait dans ce paisible salon éclairé de lampes à abat-jour, servant le thé, accompagnant les mélodies des jeunes filles, leur donnant des conseils de grande sœur, il y avait pour lui un montant singulier à cela figurer tout autre, quand elle arrivait chez lui le dimanche matin, trempée, grelottante, et que, sans même s'approcher du feu qui flambait dans son honneur, Elle se déshabillait à la hâte et se glissait dans le grand lit contre l'amant. Alors, quelles étreintes, quelles caresses longues, où se vengeaient les contraintes de toute la semaine, cette privation l'un de l'autre qui gardait le désir vivifiant à leur amour. Les heures passaient, s'embrouillaient, on ne bougeait plus du lit jusqu'au soir. Rien ne les tentait que là, nul plaisir, personne à voir, pas même les ténas qui, par économie, s'étaient destinés à vivre à la campagne. Le petit déjeuner préparé à côté d'eux, ils entendaient, anéantis, la rumeur du dimanche parisien, pataugeant dans la rue, le sifflet des trains, le roulement des fiacres chargés, et la pluie en larges gouttes sur le zinc du balcon, avec les battements précipités de leur poitrine, rythmait cette absence de la vie, sans notion de l'heure jusqu'au crépuscule. Le gaz qu'on allumait en face glissait alors un pâle rayon sur la tenture. Il fallait se lever, Fanny devant être rentrée à 7 heures. Dans le demi-jour de la chambre, tous ses ennuis, tous ses écœurements lui revenaient plus lourds, plus cruels, en remettant ses bottines encore humides de la course à pied, ses jupons, sa robe de la gérance, l'uniforme noir des femmes pauvres. Et ce qui gonflait son chagrin, c'était ces choses aimées autour d'elle, les meubles, le petit cabinet de toilette des beaux jours. Elle s'arrachait. Allons, et pour rester plus longtemps ensemble, Jean la reconduisait. Il remontait, serrés et lents, l'avenue des Champs-Élysées, dont la double rangée de lampadaires, avec l'arc de triomphe en haut, écarté d'ombre et 2 ou 3 étoiles piquant au bout du ciel, figurait un fond de diorama. Au coin de la rue Pergolèse, tout près de la pension, elle relevait sa voilette pour un dernier baiser et le laissait désorienté, dégoûté de son intérieur où il rentrait le plus tard possible, maudissant la misère, en voulant presque à ceux de Castelet du sacrifice qu'il s'imposait pour eux. Ils traînèrent 2 ou 3 mois cette existence devenue vers la fin absolument insupportable. Jean avait été obligé de restreindre ses visites à l'hôtel à cause d'un bavardage de domestique et Fanny, de plus en plus, était exaspérée par l'avarice de la mère et de la fille Sanchez. Elle pensait silencieusement à reprendre leur petit ménage et sentait son amant à bout de force lui aussi, mais elle eût voulu qu'il parlât le premier. Un dimanche d'avril, Fanny arriva plus parée que d'ordinaire, en chapeau rond, en robe de printemps bien simple, on n'était pas riche, mais tendue aux grâces de son corps. « Allez, lève-toi vite, nous allons déjeuner à la campagne. »« À la campagne ?»« Oui, à Enghien, chez Rosa. Elle nous invite tous les deux. » Il dit non d'abord, mais elle insista. Jamais Rosa ne pardonnerait un refus. « Bon, tu peux bien consentir. Pour moi, j'en fais assez, il me semble. » C'était au bord du lac d'Enghien, devant une immense pelouse descendant jusqu'à un petit port où se balançaient quelques yoles et gondoles, un grand chalet, merveilleusement orné et meublé, et dont les plafonds, les panneaux en miroir, reflétaient l'étincellement de l'eau, les superbes charmilles d'un parc déjà frissonnant de verdure hâtive et de lilas en fleurs. Les livrées correctes, les allées où ne traînait pas une brindille faisaient honneur à la double surveillance de l'Osario et de la vieille Pilar. On était à table quand ils arrivèrent, une fausse indication les ayant égarés 1 heure autour du lac par des ruelles entre de grands murs de jardin. Jean acheva de se décontenancer au froid accueil de la maîtresse de la maison, furieuse qu'on lui fait attendre, et à l'aspect extraordinaire des vieilles parcs auxquelles Rosa le présentait de sa voix de charretier. Trois élégantes, comme se désignent entre elles les grandes cocottes, trois antiques roulures comptant parmi les gloires du Second Empire, au nom aussi fameux que celui d'un grand poète ou d'un général à victoire, Wilkie Cobb, Sombreuse, Clara des Fous. Élégante, certes, elle l'était toujours, attifée à la mode nouvelle, aux couleurs du printemps, délicieusement chiffonnée de la collerette aux bottines, mais si fanée, fardée, retapée. Sombreuse, sans cils, les yeux morts, la lèvre détendue, tâtonnant autour de son assiette, de sa fourchette, de son verre. L'index fou, énorme, coupeur rosé, une boule d'eau chaude aux pieds, étalant sur la nappe ses pauvres doigts goutteux et tordus, aux bagues étincelantes, aussi difficiles, compliquées à entrer et à sortir que les anneaux d'une question romaine. Et Cobb, toute mince, avec une taille jeunette, qui faisait plus hideuse sa tête décharnée de clown malade sous une crinière d'étoupe jaune. Celle-là, ruinée, saisie, était allée tenter un dernier coup à Monte-Carlo et revenait sans un sou, enragée d'amour pour un beau croupier qui n'avait pas voulu d'elle. Rosa, l'ayant recueillie, la nourrissait et s'en faisait gloire. Toutes ces femmes connaissaient Fanny, la saluaient d'un bonjour protecteur. « Comment va, petite ?» Le fait qu'avec sa robe à 3 francs le mètre, sans un bijou que la broche rouge de Kuiper, elle avait l'air d'une recrue parmi ces épouvantables chevronnés de la galanterie, que ce cadre de luxe, toute la lumière reflétée du lac et du ciel, entremêlée d'odeurs printanières par les battants de la salle à manger, faisait plus spectrales encore. Il y avait aussi la vieille mère Pilar, le change, comme elle s'appelait elle-même dans son charabia franco-espagnol, vraie macaque à peau déteinte et râpeuse, d'une malice féroce sur des traits grimaçants, coiffée en garçon, les cheveux gris au ras de l'oreille, et sur sa robe de vieux satin noir, un grand col bleu de maître timonier. « Et puis, monsieur Bichito, » dit Rosa, achevant de présenter ses convives et montrant à Gossin un tampon de ouate rose où le caméléon grelottait sur la nappe. « Eh bien, et moi, on présente pas ?» réclama sur un ton de jovialité féroce un grand garçon à moustache grisonnante de tenue correcte, même un peu raide dans son veston clair et son col montant. « Oh, c'est vrai, et ta tave !» dirent les femmes en riant. La maîtresse de maison lâcha son nom avec négligence. « Ta tave, c'était De Potter, le savant musicien, l'auteur acclamé de Claudia de Savonarole. » Et Jean, qui n'avait fait que l'entrevoir chez les Chelettes, s'étonnait de trouver au grand artiste des allures si peu géniales. Ce masque en bois dur et régulier, ses yeux déteints, scellant une passion folle, incurable, qui depuis des années l'accrochait à cette gueuse, lui faisait quitter femme et enfant pour rester commensal de cette maison où il engloutissait une partie de sa grande fortune, ses gains de théâtre et où on le traitait plus mal qu'un domestique. Il fallait voir l'air excellé de Rosa dès qu'il racontait quelque chose, de quel ton méprisant elle lui imposait silence. Et, renchérissant sur sa fille, Pilar ne manquait jamais d'ajouter d'un accent convaincu « Foutez-nous la paix, mon garçon !» Jean l'avait pour voisine, cette Pilar, et ses vieilles babines qui grondaient en mangeant avec un ruminement de bête. Ce coup d'œil inquisiteur dans son assiette mettait au supplice le jeune homme déjà gêné par le ton de patronne Rosa, plaisantant Fanny sur les soirées musicales de l'hôtel et la jobarderie de ses pauvres rastaquaires qui prenaient la gérante pour une femme du monde tombée dans le malheur. L'ancienne dame des chars, bouffie de graisse malsaine, des cabochons de 10 000 francs à chaque oreille, semblait envier à son ami le renouveau de jeunesse et de beauté que lui communiquait cet amant jeune et beau. Et Fanny ne se fâchait pas, amusait au contraire la table, raillait en rapin les pensionnaires. Le Péruvien, qui lui avouait en roulant ses yeux blancs son désir de connaître une grande coucoute, et la cour silencieuse, à souffle de phoque, du Hollandais haletant derrière sa chaise. « Devinez combien les pommes de terre à Basavia !» Gossin ne riait guère, lui. Pilar non plus, occupé à surveiller l'argenterie de sa fille, ou s'élançant d'un geste brusque, visant sur le couvert de ventelle ou la manche de son voisin, une mouche qu'elle présentait en baragouinant des mots de tendresse. « Mange mi alma, mange mi corazon !» à la hideuse petite bête échouée sur la nappe, flétrie, plissée, uniforme, comme les doigts de la déesse fou. Quelquefois, toutes les mouches en déroute, elle en apercevait une, contre le dossier ou la vitre de la porte, se levait et la raflait triomphalement. Ce manège souvent répété impatienta sa fille, décidément très nerveuse ce matin-là. « Oh, ne te lève donc pas à toute minute, c'est fatigant !» Avec la même voix descendue de deux tons dans le charabia, la mère répondit « Vous dévorez votre trosse, pourquoi tu veux pas qu'il mange Louis ?»« Oh, sors de table ou tiens-toi tranquille, tu nous embêtes !» La vieille se rebiffa, et toutes deux commencèrent à s'injurier en dévotes espagnoles, mêlant le démon et l'enfer à des invectives de trottoir. « Hija del demonio, cuerno de Satanas, puta, mi madre !» Jean les regardait épouvantés, tandis que les autres convives, habitués à ces scènes de famille, continuaient de manger tranquillement. De Potter seul intervint par égard pour l'étranger. « Oh, ne vous disputez donc pas, voyons !» Mais Rosa, furieuse, se retourna contre lui. « De quoi te mêles-tu ? En voilà des manières ! Est-ce que je suis pas libre de parler ? Allez, va donc voir un peu chez ta femme, si j'y suis. J'en ai assez de tes yeux de merlan frits et des trois cheveux qui te restent. Va les porter à ta dinde, il n'est que temps. » De Potter souriait un peu pâle. « Et il faut vivre avec ça !» murmurait-il dans sa moustache. « Ça vaut bien ça !» hurla-t-elle tout le corps à l'avant sur la table. « Eh, tu sais, la porte est ouverte, hein, fille, hop !»« Voyons, Rosa !» supplièrent les pauvres yeux ternes. Et la mère Pilar, se remettant à manger, dit avec un flegme si comique « Foutez-nous la paix, mon garçon !» que tout le monde éclata de rire, même Rosa, même De Potter, qui embrassait sa maîtresse encore, toute grondante, et pour achever de gagner sa grâce, attrapait une mouche et la donnait délicatement par les ailes à Bichito. Et c'était De Potter, le compositeur glorieux, la fierté de l'école française. Comment cette femme le retenait-elle ? Par quel sortilège, vieilli de vices grossières, avec cette mère qui doublait son infamie, la montrait-elle telle qu'elle serait 20 ans plus tard, comme vue dans une boule étamée ? On servit le café au bord du lac, sous une petite grotte en rocaille, revêtu à l'intérieur de soie claire que moirait le mouvement de l'eau voisine, un de ces délicieux nids à baisers inventés par les contes du XVIIIe siècle, avec une glace au plafond qui reflétait les attitudes des vieilles parques répandues sur le large divan dans une pâmoison digérante, et Rosa, les joues allumées sous le phare, s'étirant les bras à la renverse contre son musicien. « Oh, mon tatave, mon tatave !» Mais cette chaleur de tendresse s'évapora avec celle de la chartreuse, et l'idée d'une promenade en bateau étant venue à l'une de ces dames, elle envoya le potter préparer le canot. « Le canot, tu entends pas la norvégienne ?»« Ben, si je disais à Désiré, ben, Désiré des jeunes, c'est que le canot est plein d'eau, faut écoper, c'est tout un travail. Bon, « Jean ira avec vous de potter, » dit Fanny, qui voyait venir encore une scène. Assis en face l'un de l'autre, les jambes écartées, chacun sur un banc du bateau, ils l'écoutaient activement, sans se parler, sans se regarder, comme hypnotisés par le rythme de l'eau jaillie des deux écopes. Autour d'eux, l'ombre d'un grand catalpa tombait en fraîcheur odorante et se découpait sur le lac, resplendissant de lumière. « Y a-t-il longtemps que vous êtes avec Fanny ?» demanda tout à coup le musicien s'arrêtant dans sa besogne. « 2 ans, » répondit Gossin, un peu surpris. « Seulement 2 ans. Ah, alors ce que vous voyez aujourd'hui pourra peut-être vous servir. Moi, voilà 20 ans que je vis avec Rosa. 20 ans que, revenant d'Italie après mes 3 années de prud'homme, je suis entré à l'hippodrome un soir et que je l'ai vu debout dans son petit char, au tournant de la piste, m'arrivant dessus le fouet en l'air avec son casque à 8 fers de lance et sa cotte d'écaille d'or, lui serrant la taille jusqu'à mi-cuisse. Oh, si l'on m'avait dit !» Et se remettant à vider le bateau, il racontait comment, chez lui, on n'avait fait que rire d'abord de cette liaison, puis, la chose devenant sérieuse, de combien d'efforts, de prières, de sacrifices ses parents auraient payé une rupture. 2 ou 3 fois, la fille était partie à force d'argent, mais lui la rejoignait toujours. « Essayons du voyage, » avait dit la mère. Mais il voyagea, revint et la reprit. Alors il s'était laissé marier, jolie fille, riche dot, la promesse de l'institut dans la corbeille de noces, et 3 mois après, il lâchait le nouveau ménage pour l'ancien. Ah, jeune homme, oh, jeune homme! Et il débitait sa vie d'une voix sèche, sans qu'un muscle animât son masque, raide comme le col empesé qui le tenait si droit. Et des barques passaient, chargées d'étudiants et de filles, débordant de chansons, de rires, de jeunesse et d'ivresse. Combien parmi ces inconscients auraient dû s'arrêter et prendre leur part de l'effroyable leçon? Dans le kiosque, pendant ce temps, comme si c'était un mot donné de travailler à leur rupture, les vieilles élégantes prêchait la raison à Fanny Legrand. Joli, son petit, mais pas le sou, à quoi ça l'amènerait-il? Mais enfin, puisque je l'aime, et Rosa levant les épaules. Mais laissez-la donc, elle va encore rater son Hollandais, comme je l'ai vu rater toutes ses belles affaires. Après son histoire avec Flamand, elle avait pourtant essayé de devenir pratique, mais la voilà plus folle que jamais. Aïe, velaka, progna maman Pilar. L'anglaise à la tête de clown intervint avec l'horrible accent qui si longtemps avait fait son succès. C'était très bien d'aimer l'amour, petite, c'était très bon l'amour, vous savez, mais vous devez aimer la gens aussi. Moi maintenant, Si j'étais riche toujours, est-ce que mon croupier dirait je suis laide, croyez-vous? Elle eut un bond de fureur, lui haussant la voix à l'aigu. Oh, c'est déboutant, terrible, cette chose. Avoir été célèbre au monde, l'universel connu, comme un monument, comme un boulevard. Si connu que vous n'avez pas un misérable cocher quand vous disiez Wilkie Cobb, tout de suite il savait où c'était. Avoir eu des principes pour mes pieds dessus et des rois si je crachais. Il disait que c'était joli le crachement. Et voilà maintenant ce sale voyou qui voulait pas de moi sur cette motif de ma laideur. Je savais pas de quoi seulement me le payer pour une nuit. Et se montant à cette idée qu'on avait pu la trouver laide, elle ouvrit sa robe brusquement. La figurier, je sacrifiais, mais ça, le gorge, les épaules, les blancs, est-ce dur? Elle étalait avec un pudeur sa chair de sorcière, restée miraculeusement jeune après 30 ans de fournaise, et que la fête surmontait flétrie et macabre depuis la ligne du cou. Mesdames, le bateau est prêt, cria le pot de terre, et l'anglaise, agrafant sa robe sur ce qui lui restait de jeunesse, murmura dans un navrement comique « Je ne pouvais pourtant pas aller tout nu sur les places. » Dans ce décor de l'ancret, où la blancheur coquette des villas éclatait parmi la verdure nouvelle, avec ses terrasses, ses pelouses encadrant le petit lac tout écaillé de soleil, quel embarquement que celui de toute cette vieille citerre éclopée! L'aveugle sombreuse et le vieux clown et laisse-vous la paralytique, laissant dans le sillon de l'eau le parfum musqué de leur maquillage. Jean tenait les rêmes, le dos courbé, honteux et désolé qu'on pût le voir et lui attribuer quelques basses fonctions dans cette sinistre barque allégorique. Heureusement qu'il avait en face de lui, pour rafraîchir son cœur et ses yeux, Fanny le Grand, assise à l'arrière, près de la barre que tenait de Potter. Fanny, dont le sourire ne lui avait jamais paru si jeune, sans doute par comparaison. Chante-nous quelque chose, petite, demanda la Desfou, que le printemps amollissait. De sa voix expressive et profonde, Fanny commençait la barcarolle de Claudia, que le musicien, remué par ce rappel de son premier grand succès, suivait en imitant à bouche fermée le dessin de l'orchestre, cette ondulation qui fait courir sur la mélodie comme une lumière d'eau dansante. À 7 heures, dans ce décor, c'était délicieux. D'une terrasse voisine, on cria « Bravo !» Et le Provençal, ramenant en mesure les avirons, avait soif de cette musique divine aux lèvres de sa maîtresse. Une tentation de mettre sa bouche à même la source et de boire dans le soleil, la tête renversée toujours. Tout à coup, Rosa, furieuse, interrompit la cantilène dont le mariage de voile irritait. Hé, là-bas, la musique, quand vous aurez fini de vous roucouler dans la figure, si vous croyez qu'elle nous abuse, votre romance d'enterre-mort, ah voilà, c'est d'abord, il est tard, il faut que Fanny rentre à la boîte. Et d'un geste furibond montrant la plus prochaine débarcadère, à bord de là, dit-elle à son amant, ils seront plus près de la gare. C'était brutal comme congé, mais l'ancienne dame des chars avait habitué son monde à ses façons de faire et personne n'osa protester. Le couple, jeté au rivage avec quelques mots de froide politesse au jeune homme, des ordres à Fanny d'une voix sifflante, la barque s'éloigna, chargée de cris, d'un train de dispute que termina un insultant éclat de rire apporté aux deux amants par la sonorité de l'eau. Mais tu entends, disait Fanny blême de rage, c'est de nous qu'elle se moque. et toutes ses humiliations. Toutes ses rancœurs lui remontant à cette dernière injure, elle les énumérait en regagnant la gare, avouait même des choses qu'elle avait toujours cachées. Rosa ne cherchait qu'à l'éloigner de lui, qu'à faciliter des occasions de le tromper. Mais tout ce qu'elle m'a dit pour me faire prendre ce Hollandais, encore tout à l'heure, elles s'y sont toutes mises. Mais je t'aime trop, tu comprends, ça la gêne pour ses vices, car elle les a tous, oh, les plus bas, les plus monstrueux. Et c'est parce que je ne veux plus. Elle s'arrêta, le vit très pâle, les lèvres tremblantes, comme le soir où il remet le fumier aux lettres. « Oh, ne crains rien, » dit-elle, « ton amour m'a guéri de toutes ces horreurs. Elle et son caméléon qui empeste, mais ils me dégoûtent tous deux. Je ne veux plus que tu restes là, » fit l'amant affolé de jalousie malsaine. Il y a trop de saleté dans le pain que tu gagnes. Tu vas revenir avec moi, nous en tirerons toujours. » Elle l'attendait, ce cri, l'appelait depuis longtemps. Cependant, elle résista, objectant qu'en ménage, avec les 300 francs du ministère, la vie serait bien difficile, qu'il faudrait peut-être se séparer encore. Mais j'ai tant souffert en quittant notre pauvre maison. Des blancs s'espaçaient sous les acacias qui bordent la route avec les fils du télégraphe chargés d'hirondelles. Pour mieux causer, ils s'assirent, très émus tous deux, et les bras noués. 300 francs par mois, disait Jean, mais comment font les Eltema qui n'en ont que 250? Mais ils vivent à la campagne, à Chaville, toute l'année. Eh bien, faisons comme eux, je ne tiens pas à Paris. Vrai? Tu veux bien? Oh, mamie, mamie! Du monde passait sur la route, une galopade d'ânes emportant un lendemain de noces. Ils ne pouvaient pas s'embrasser, restaient immobiles, serrés l'un à l'autre, rêvant d'un bonheur rajeuni dans des soirs d'été, qui aurait cette douleur champêtre, ce calme tiède qu'égayaient au loin les coups de carabine, les ritournelles d'orgue d'une fête de banlieue.